Utopod 025, 13 décembre 2008, Les Immortels de l'Atlantide de Brian Stableford. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un récit inédit en français de Brian Stableford, Les Immortels de l'Atlantide. La version originale en anglais est parue en 2007 chez l'éditeur britannique indépendant Newcon Press dans l'anthologie Dislocations sous la direction de Ian Waits. Le texte a ensuite été retenu par Gardner d'Ozois pour sa toute dernière édition du cultissime Year's Best Science Fiction, compilation annuelle de ce qui se produit de mieux, aujourd'hui, en science-fiction anglophone. Brian Stableford, né en 1948, est un écrivain anglais qui a publié près de 100 romans, nouvelles et recueils. Diplômé de biologie et docteur en sociologie, il enseigne à l'université jusqu'en 1988, avant de devenir écrivain à plein temps. Il a entre autres reçu le British Science Fiction Award en 1995. En dehors de son travail d'auteur, il édite des anthologies, écrit des essais, traduit du français et anime des ateliers d'écriture. La traduction française de la nouvelle présentée aujourd'hui est de Lucas Moreno, votre serviteur. Notre lectrice du jour est Jeanne Ferreux, comédienne et actrice suisse que les auditeurs du Topod connaissent désormais très bien. L'enregistrement et le montage audio sont de Gérard Pidou. Merci à eux deux pour leur superbe boulot, leur fidélité et leur disponibilité. Et maintenant, dilatez vos narines, prévenez les voisins et place à la littérature.
Les Immortels de l'Atlantide de Brian Stableford. Traduction Lucas Moreno. Sheila ne répondait jamais quand elle entendait la sonnette, car il se trouvait toujours derrière la porte des individus qu'elle ne voulait pas voir, et même souvent des individus qu'elle voulait à tout prix éviter. Les membres de cette dernière catégorie allaient de l'agent de recouvrement de créances jusqu'à l'officier de police, en passant par les amis de Darren, tous des apprentis d'Hilaire, ou encore ceux de Tracy, dont la plupart étaient de vieux routards du détournement de mineurs. Parmi ces visiteurs, pas tout le monde ne se contentait d'un simple nom, bien entendu. Le fait que ni les créanciers ni les policiers ne fussent habilités à enfoncer la porte à coups de pied ne constituait vraisemblablement pas un élément de dissuasion très efficace. À vrai dire, il était plutôt rare que quiconque utilise des moyens plus subtils pour entrer dans l'appartement. Voilà pourquoi Sheila fut très surprise de voir l'homme aux cheveux blancs faire son entrée dans le salon sans qu'elle eût au préalable entendu le moindre bruit de bois fendu. « J'ai sonné, mais vous n'avez pas répondu », précisa inutilement l'intrus. Sans prendre la peine de se lever de son fauteuil, Sheila répondit « C'est peut-être parce que je n'avais pas envie de vous laisser entrer. » La télévision s'éteignit, alors qu'elle n'avait même pas tendu la main vers la télécommande. Il ne s'agissait pas d'une vulgaire mise en veille, comme cela se produisait parfois de façon automatique, mais bel et bien d'une mise hors tension. À 11h du matin, elle ne regardait pas vraiment les programmes. La télé lui tenait simplement compagnie en l'absence d'une meilleure option, mais l'interruption lui parut tout de même un tantinet grossière. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit l'homme, il faut que nous parlions. » La formulation lui fit se demander si elle avait affaire à l'un de ses ex-petits amis, dont la plupart échappaient à sa mémoire en raison de la brièveté de leur relation. Quoi qu'il en fût, celui-ci n'avait décidément pas l'apparence d'un ex. Il portait un costume cravate. Le complet était élimé et démodé, assez pour provenir d'une brocante d'association d'aide au tiers-monde, mais c'était tout de même un complet. L'homme était également beaucoup trop vieux, pas moins de 60 ans, et trop maigre pour correspondre au profil, pas un gramme de graisse superflue. Sa haute taille le faisait paraître presque squelettique. La jeune femme m'aurait plus facilement cru en son existence s'il avait porté une cape munie d'un capuchon et tenu une faux dans ses mains. En vérité, il ne tenait qu'une énorme serviette. Si énorme que le fait qu'il soit parvenu à traverser la cité sans se faire agresser relevait du miracle. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sans fausse courtoisie. « Vous n'êtes pas celle que vous croyez, Sheila. » « C'est un fanatique religieux, » songea-t-elle aussitôt. Les Mormons et les témoins de Jéhovah ne pénétraient plus dans la cité depuis des années, car il existait dans le monde des endroits bien moins dangereux où remplir leur rôle de missionnaire, la Somalie par exemple, ou l'Irak. Toutefois, il demeurait concevable qu'il y ait encore sur Terre des individus pour croire que la protection de Dieu s'étendait même en des lieux comme celui-ci. « Dans le coin, nous sommes tous ceux que nous croyons être, » rétorqua Sheila. « Personne ne nourrit l'illusion d'être quelqu'un de spécial. Ici, c'est la fin du monde, et je n'entends pas cela au sens de l'Apocalypse, où les élus seront élevés au ciel. » Je savais que la tâche ne serait pas facile, dit l'homme. Inutile de perdre du temps. Je suis vraiment désolé d'avoir à faire ça, mais c'est pour notre bien à tous. Il posa sa mallette, bondit sur elle, l'obligea à se mettre debout et lui noua les mains dans le dos à l'aide d'un morceau de corde fine, mais incroyablement résistante. Elle hurla aussi fort qu'elle put, mais elle savait que personne n'y prêterait attention. Il n'ignorait sans doute pas ce détail, car il n'essaya pas de l'en empêcher. Il choisit la plus robuste de ses trois chaises de salon, la plaça au milieu de la pièce et entreprit d'attacher les chevilles de sa captive au pied du siège. « Mon petit ami sera de retour d'une minute à l'autre, annonça Sheila. Il est videur et va vous broyer en petits morceaux. » « Vous n'avez pas de petit ami, Sheila. Vos relations ne durent jamais plus de 2 semaines. Vous avez toujours prétendu que c'est parce que les hommes sont tous des salauds, mais au fond, vous vous doutiez que la coupable, c'est peut-être vous. Et c'est effectivement le cas. En dépit de vos énormes efforts, vous les repoussez et les incitez bel et bien à vous quitter. » Désormais, Sheila était solidement ligotée. L'homme avait passé plusieurs longueurs de cordes supplémentaires autour de son corps, de façon à la maintenir avec fermeté contre le dossier de la chaise. Vu la position dans laquelle elle se trouvait, il était fort improbable qu'il eût l'intention de la violer, mais cela ne la rassurait pas pour autant. Le viol, au moins, était une chose qu'elle se sentait à même de comprendre, d'endurer. Elle pouvait y survivre. « J'ai un fils, » argumenta-t-elle. « Il n'est peut-être pas aussi grand que vous, mais il fait partie d'un gang, et il est très brutal. Il porte un couteau, peut-être même qu'il est passé au pistolet à l'heure qu'il est, et dans le cas contraire, certains de ses potes en auront sûrement un. » « C'est vrai, » concéda de bon cœur l'homme aux cheveux blancs. « Mais vous avez omis de préciser que Darren ne revient quasiment plus à la maison, parce qu'il trouve votre compagnie aussi désagréable que tous les hommes qui ont brièvement traversé votre misérable existence. Pour dire les choses brutalement, vous le dégoûtez. » « Tracy me porte dans son cœur, elle, » rétorqua Sheila, beaucoup plus soucieuse de préciser ce point que de demander à son interlocuteur comment il connaissait le nom de son fils. La mallette était ouverte à présent. L'intrus en tirait quantité d'objets à un rythme soutenu, d'étranges ustensiles faisant penser à un équipement complet de chimie. On y trouvait des bouteilles et des bocaux, des fioles et des trépieds, jusqu'à un mortier et un pilon. Il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à un vulgaire briquet à butane. Une flamme s'en élevait dès qu'on l'effleurait, et il suffisait de le toucher une deuxième fois pour que la puissance du feu augmente. « C'est aussi vrai, » poursuivit l'homme qui harcelait Sheila sans le moindre état d'âme. « Tracy a beaucoup d'amour en elle, tout comme vous, et elle a toujours aspiré à une vie meilleure, à plus de débouchés. Elle non plus ne parvient pas à établir des relations stables, n'est-ce pas ? Mais il garde espoir. Quant à Darren, il ne me servirait à rien, car le supplément mitochondrial s'atrophie chez les garçons bien avant la puberté. Naturellement, j'aurais pu m'adresser à Tracy au lieu de vous. Elle se serait probablement montrée plus coopérative, mais cela n'aurait pas été très sympa de ma part. Ce n'est encore qu'une enfant et vous avez droit à votre chance. Il eût été injuste de la choisir à votre place. De toute façon, sa vie changera elle aussi de manière irrévocable lorsque vous serez parfaitement éveillée, ainsi que celle de Darren, quoiqu'il ne vous témoignera sans doute pas la même reconnaissance. » C'en était trop. « C'est quoi ce ramassis de conneries, espèce de taré ? » s'emporta-t-elle. Tant pis si sa réaction trahissait son état. Maintenant, il verrait qu'elle était en train de craquer. Il comprendrait qu'il avait réussi à la faire flipper avec son spectacle de psychopathe. « Mon nom, mon vrai nom, pas celui qui figure sur mon permis de conduire, est Sarment Rodard, » expliqua l'homme. « Le corps que vous voyez appartenait jadis à un docteur en océanographie, Arthur Baylis. » Mais j'ai réussi à le sauver d'une vie terriblement ennuyeuse, passé à remuer de la vase chargée de clatrate. L'ADN prédateur cristallisé dans mon avatar viral a délogé son ADN d'origine peu à peu dans chaque cellule de son organisme, puis s'est mis à remodeler les connexions neuronales de son cerveau. Il a souffert de terribles maux de tête. J'aimerais pouvoir vous dire que vous ne subirez rien de pareil, mais ce sera bel et bien le cas. De loin, pas sur une période aussi étendue, mais de façon encore plus intense. Si seulement il suffisait de vous faire avaler une dose de vase imprégnée de virus, mais ce n'est pas si simple, votre ADN prédateur est latent dans vos cellules. Il a été sécrété à l'intérieur de suppléments mitochondriaux et attend son activation. Le processus est complexe, mais pas très difficile si l'on dispose de matières premières adéquates. Je possède les ingrédients nécessaires, bien que j'ai dû trimer pour tous les trouver. Le déclenchement du processus prendra 1 heure, puis il faudra 6 mois de plus pour achever la transition. Sheila n'avait pas compris grand-chose aux détails, mais elle pensait avoir saisi l'essentiel. « La transition vers quoi, au juste ?» demanda-t-elle en songeant à l'incroyable Hulk et à Mr. Hyde. « Oh, ne vous en faites pas. Vous garderez une apparence humaine. Vos cheveux deviendront blancs du jour au lendemain, mais vous aurez le privilège de voir fondre toute la graisse superflue et la cellulite de votre corps. Vous ne ressemblerez pas à un top modèle, mais vous vivrez des milliers d'années. Dans un certain sens, étant donné que votre vrai moi est enfermé dans vos suppléments mitochondriaux, vous y avez déjà vécu des milliers d'années. Cet autre moi est l'un des immortels de l'Atlantide. » Sheila s'était toujours sentie parfaitement capable de traiter avec les psychopathes. Elle en connaissait tellement. Mais suite à d'amères expériences, elle savait que négocier avec un schizophrène délirant, c'était une autre paire de manches. Elle recommença à crier aussi fort et de manière encore plus désespérée qu'avant. Elle songea que, selon toute probabilité, il y aurait au moins une dizaine de personnes qui l'entendraient dans les appartements voisins. Les chances que l'une d'entre elles lui réponde d'une manière ou d'une autre étaient faibles. Les hurlements passaient pour un comportement normal en ces lieux, mais c'était peut-être bien son dernier espoir. Le docteur Arthur Baylis, alias Sarme Rodach, partageait à l'évidence cette opinion, car il fourra un mouchoir dans la bouche ouverte de sa victime, puis utilisa un autre morceau de son interminable corde pour confectionner un bâillon et maintenir le tout en place. Ensuite, il s'activa autour de sa panoplie de chimistes. Sheila n'avait aucune idée des ingrédients que l'homme mélangeait dans ses fioles, mais elle n'eût guère été surprise si on lui avait dit qu'elle contenait du sang de vierge, du venin de vipère et un peu de cette bave hallucinogène sécrétée, disait-on, par les crapauds buffles américains. Parmi les éléments qu'il pulvérisait dans le mortier, il y avait sans doute aussi des chapeaux de champignons vénéneux, des racines aromatiques et des fleurs parfumées. Sheila supposait que chacune de ces substances s'avérait aussi toxique qu'une solanacée mortelle et aussi dangereuse pour la santé mentale que les plus puissants champignons hallucinogènes. L'homme de haute taille parlait en travaillant. « Je préférerais de loin observer le principe du consentement en pleine connaissance de cause, bien que je ne sois pas vraiment docteur et science, encore moins médecin, mais ce ne serait pas très pratique vu les circonstances. » Votre faux moi refuserait forcément de concevoir l'existence de votre vrai moi aussi dénué de valeur que soit votre personne actuelle, aussi misérable que s'avère votre existence du moment, parce que, par définition, l'ego est égoïste. » Il s'interrompit, brandit une spatule et s'en servit pour mesurer une dose de poudre rouge. Puis il la versa dans la fiole dont le contenu bouillonnait au-dessus du brûleur. Il n'utilisait aucun instrument de mesure, mais à l'évidence, le dosage était une affaire délicate. « Si la chenille avait le choix, poursuivit-il, jamais elle ne consentirait à devenir papillon. Certains types de larves ne sont pas obligés de le faire, vous savez, cela s'appelle la pédogenèse. Au lieu de devenir des chrysalides et de surgir du cocon en tant qu'adultes, elles peuvent développer des organes sexuels et se reproduire sans même avoir atteint la maturité, et parfois cela dure pendant plusieurs générations. » Mais sous l'effet d'un stimulus environnemental approprié, elles transmettent tout de même les gènes dont leurs descendants auront un jour ou l'autre besoin pour effectuer leur métamorphose. De cette façon, les générations futures, aussi éloignées dans le temps soient-elles, peuvent facilement retrouver leur nature propre, leur véritable splendeur et leur vrai destin. Il s'interrompit à nouveau, cette fois-ci pour transférer quelques gouttes de liquide depuis le mortier, où il avait écrasé un mélange de tissus végétaux, vers une deuxième fiole qui n'avait pas encore été chauffée. Voilà exactement ce que firent les immortels de l'Atlantide quand ils comprirent que bientôt, lorsque leur patrie aurait disparu sous l'océan, ils perdraient l'ensemble de leur richesse culturelle. Ils savaient que dès la génération suivante, leur peuple retournerait au stade barbare de l'âge de pierre et que le phénomène se poursuivrait dans les siècles à venir. Il faudrait à leurs descendants des milliers d'années pour revenir à un niveau tolérable de civilisation. Mais les anciens voulaient offrir à leurs enfants une chance de devenir mieux que ça quand les circonstances seraient à nouveau favorables. Ainsi, les immortels trouvèrent le meilleur refuge possible. L'élite de l'Atlantide se composait de grands biotechnologistes, voyez-vous, qui considéraient leur technologie basée sur les métaux lourds comme atrocement vulgaire, tout juste bonne pour les besognes pénibles des esclaves. Il fit une nouvelle pause, cette fois-ci pour examiner avec le plus grand soin une sorte de purée qu'il malaxait depuis un moment. Il préleva une cuillerée du mélange et comme il n'avait pas de microscope, la porta à quelques centimètres de ses yeux gris pâles. « À votre avis, reprit-il, comment réagiraient aujourd'hui les membres de notre élite si la glace de l'Antarctique se mettait à fondre et que l'eau des océans venait à inonder les villes du monde ? Si le méthane contenu dans les clatrates subocéaniques était soudain libéré, absorbait tout l'oxygène et rendait l'air irrespirable ? Je pense qu'ils creuseraient profondément la terre pour y trouver un abri. Ils se retireraient dans leur tanière en une sorte d'hibernation culturelle qui pourrait durer de 1000 à 100 000 ans. Puis ils resteraient ainsi jusqu'à ce que la flore planétaire, toujours fidèle, ait rendu l'atmosphère à nouveau respirable. Mais cela ne se passera pas comme ça, parce que vous et moi, ainsi que d'autres immortels, lorsque nous en aurons localisé et ranimé un nombre suffisant, veillerons à ce qu'il en aille autrement. Une fois que vous serez entièrement réveillé, nous posséderons les connaissances, nous posséderons l'autorité. La seule façon de sauver la Terre, c'est que tout le monde travaille ensemble et accomplisse les actions nécessaires. Or cela n'arrivera pas, à moins que quelqu'un prenne le contrôle et rétablisse un système censé d'esclavage. Les immortels seront en mesure d'atteindre cet objectif dès que nous en aurons ressuscité assez. Nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Il marqua une minuscule pause dans son monologue, le temps d'éloigner une fiole du brûleur et d'en mettre une autre à la place. « Comme vous le voyez, » dit-il en faisant de grands gestes pour embrasser les différents composés qu'il était en train de fabriquer, « le processus de revitalisation comprend 5 étapes, qui correspondent à 5 drogues ici présentes. Fraîchement préparées selon des recettes bien précises, elles vous seront administrées l'une à la suite de l'autre et aussi rapidement que possible. Ne vous en faites pas, vous n'aurez pas à subir d'injections ni même à avaler de substances au goût ignoble. Il vous suffit de respirer les essences. C'est encore plus simple que de fumer du crack. Je sais que cela paraît compliqué et il est vrai que l'expérience pourrait mal tourner si je commettais la moindre erreur dans la préparation ou l'administration, mais vous devez me faire confiance. » Le docteur Baylis n'a jamais effectué de telles manipulations, mais Sarmerodach, oui. Il n'a pas perdu la main, bien qu'il ait passé les derniers millénaires à l'état latent dans la vase subocéanique, codée sous la forme d'un supervirus cristallin. À présent, j'ai presque fini. N'ayez pas peur, Sheila. Je vous assure que... La sonnette l'interrompit de manière abrupte. L'espace d'une seconde, il parut tout à fait déconcerté. Puis il se détendit. Il connaissait non seulement le nom des enfants de Sheila, mais bien plus que quiconque au sujet de sa prisonnière. Notamment, il savait qu'elle n'ouvrait jamais à personne. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme désira entendre le bruit de sa porte défoncée à coups de pied, le craquement du bois qui vole en éclats autour de la serrure et des verrous. Mais elle n'entendit que le son de plusieurs personnes s'éloignant de la porte d'une démarche traînante. Si elle avait crié à cet instant précis, cela aurait sans doute eu une influence sur le cours des événements, mais son bâillon l'en empêcha. « Bien, » dit le docteur, « nous pouvons poursuivre maintenant en toute tranquillité. » La première substance que l'homme lui administra en tenant simplement une cuillère pleine sous son nez donna à Sheila des nausées. Le mélange ne puait pas, non. Son parfum était suave et délicat, comme le bouquet d'une bouillie de flocons d'avoine sucrée en train de chauffer dans le micro-ondes, mais il troublait son équilibre intérieur d'une manière inédite pour elle. La deuxième dose la secoua encore plus profondément. Sarmerodach versa un liquide chaud sur un morceau d'ouate et le lui fit sentir comme tout à l'heure. Au début, elle éprouva une simple chatouille, au détail près que personne ne l'avait jamais chatouillée de l'intérieur, dans les poumons, le foie et les intestins, plutôt que sur la peau. Puis la caresse devint piqûre. Elle eut l'impression qu'un buisson épineux grandissait en son sein, enfonçait ses dards dans le moindre recoin de sa chair rouge et tendre. Elle ignorait qu'il était possible d'endurer une telle douleur sans perdre connaissance sous l'effet du choc et de la terreur. « Soyez patiente, » l'encouragea l'homme sur un ton exaspérant. « Ça passera. Vos cellules reviennent à la vie, Sheila. » Elles étaient à moitié mortes pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que la durée de votre courte existence. Un organisme métazoaire, c'est juste une cellule unique qui a produit d'autres cellules uniques, voyez-vous. Le sexe et la mort ne sont qu'un moyen de battre les cartes génétiques de façon à ce que les cellules soient capables d'évolution. Toutes les cellules métazoaires sont en partie fermées, Il doit en être ainsi, car elles doivent ensuite se spécialiser, assumer des fonctions physiologiques bien spécifiques, mais elles peuvent toutes être réactivées de manière partielle ou totale, à condition d'exercer le stimulus approprié. La douleur se calma, non parce que la voix de son ravisseur y avait contribué, mais parce que la deuxième drogue avait accompli sa tâche. Elle avait été charriée jusqu'au dernier recoin de son organisme par son dévoué système sanguin. Cela avait pris du temps, mais cette phase était terminée. Sheila se sentait mieux, pas seulement comme d'ordinaire lorsqu'elle se sentait mieux après avoir été malade ou déprimée, ce qui constituait un piètre soulagement comparable à celui qu'on éprouve quand on cesse de se taper la tête contre un mur de briques. Non, ce soulagement-ci était bel et bien réel, dans un sens positif. Cette sensation était d'autant plus bizarre qu'elle n'y était pas du tout habituée. Il y avait encore 3 substances à inhaler. L'ex-docteur évaluait l'état de sa captive avec un regard étrangement compétent. Il fallait que son timing soit parfait, mais il s'avéra aussi qualifié dans ce domaine qu'il l'avait été dans celui des mixtures et des cuissons. Il avait fini de préparer le 3e composé, alors il souleva la flasque, puis fit tourbillonner son contenu de façon à ce que la vapeur s'élève du goulot. Cette fois, l'effet fut narcotique, ou du moins anesthésiant. Sheila sentit qu'elle était en train de s'endormir, mais elle ne perdit pas connaissance, elle ne se mit pas à rêver, c'était un peu comme lorsqu'on planait sous l'effet de la drogue, quoique plus dans la veine de la méthamphétamine que dans celle d'un trip à l'héroïne, mais en même temps, c'était très différent. Tout d'abord, il ne lui semblait pas ressentir la curieuse sensation seulement dans sa tête ou dans ses nerfs, elle avait l'impression de l'éprouver dans chaque fibre organique de son être, et même davantage. Subjectivement, cela la rendait beaucoup plus grande qu'elle ne l'était, et beaucoup plus puissante, mais malheureusement pas assez puissante pour rompre les liens qui la tenaient fermement attachés à la chaise. L'effet anesthésiant n'était pas engourdissant, ni même franchement euphorisant, mais il promettait de la mener bien au-delà des griffes de la douleur. Hélas, la promesse ne fut pas tenue. La substance ne l'arracha pas du tout à l'emprise de la souffrance. Elle la guida simplement vers un plan existentiel où cette souffrance se manifestait sous des formes différentes, jamais expérimentées jusqu'ici. La 4e dose, la première dont la vapeur fut assez chaude pour ébouillanter les muqueuses de ses narines et de ses bronches, fut horriblement désagréable. Elle lui donna la pire migraine de sa vie, avec distorsion visuelle et tout le reste. Elle enfonça 1 million de poignards dans sa chair. Elle répandit des vagues de douleurs atroces qui serpentèrent à travers son organisme, telles des ondes sonores, comme si Sheila était emprisonnée dans une gigantesque cloche d'église pilonnée par une succession de marteaux d'acier, et ses vibrations demeuraient silencieuses, bien qu'elle ne fût pas devenue sourde. Elle percevait encore le bavardage de Sarme Rodar, dont elle distinguait chaque mot en dépit de la torture qu'elle était en train de subir. « Bientôt, vous commencerez à vous sentir davantage vous-même, » annonça le vieil homme. « Vous remarquerez que Sheila s'éloigne peu à peu comme l'enveloppe d'un cocon désormais superflu. Vous serez capable de percevoir votre véritable être et votre véritable personnalité. Pas assez distinctement dans un premier temps pour mettre un nom sur votre propre personne, mais assez bien pour savoir que vous existez. Vous serez en mesure d'entrevoir les possibilités inhérentes à vous-même. » Pas juste la puissance, mais aussi la sensibilité esthétique, la conscience des interactions physiologiques des hormones et des enzymes, l'extase des mitochondries et le triomphe des phagocytes. La souffrance que vous éprouvez en ce moment correspond juste à une sorte de traumatisme de naissance, un choc nécessaire. Lorsqu'elle diminuera, vous commencerez à ressentir ce que vous êtes vraiment et ce que vous pourriez bientôt... Le dernier mot de sa phrase mourut sur ses fines lèvres quand la sonnette de la porte retentit à nouveau. Cette fois, le tintement répété fut rapidement suivi d'un bruit de poing cognant contre la porte. Mais personne ne cria « Police !» On entendit plutôt « Darren ! Nous savons que tu es là !» Les garçons qui se trouvaient derrière la porte ne possédaient pas les mystérieux pouvoirs d'intuition de Sarme Rodar. Ce qu'ils prétendaient savoir était complètement erroné. En ce moment, Darren pouvait se cacher n'importe où, mais il ne se trouvait pas, en tout cas, dans la maison. Alors que l'homme aux cheveux blancs tendait la main pour attraper une nouvelle fois sa cuillère, d'une main qui désormais tremblait imperceptiblement, le concert de coups de poing frappés contre la porte fut remplacé par un bruit sourd de bottes martelantes. Le battant, qui n'offrait à la base plus beaucoup de résistance, ne tarda pas à céder. Il se brisa en éclats et s'écrasa contre le mur de l'entrée. Sarmerodar tenait la cuillère sous le nez de Sheila. De minces volutes de vapeur s'enroulaient déjà à l'intérieur de ses narines. Elle en sentait le parfum exotique, qu'en temps normal, elle n'aurait pas du tout aimé, mais qui étonnamment constituait en ce moment précis la fragrance la plus merveilleuse qu'elle eût jamais humée. Le temps sembla décélérer. La porte du salon s'ouvrit au ralenti, dans un grand bruit, et les garçons firent leur entrée trébuchante d'une manière étrange de danseurs de ballet, flottant avec une grâce incongrue, tandis que leurs corps s'entrechoquaient. Un seul d'entre eux tenait un pistolet, mais les trois autres portaient des couteaux, et tous les quatre étaient prêts pour un peu d'action. Il y eut quelque chose d'irrémédiablement comique dans la façon dont ils s'arrêtèrent net quand ils aperçurent la scène qui se déroulait devant eux. Ils restèrent bouche bée. Leurs yeux parurent véritablement gonflés. En des circonstances normales, bien sûr, ils auraient intimidé Sheila avec leurs armes. Ils l'auraient menacé de la frapper, puis ils lui auraient probablement tailladé le visage, non parce qu'elle se serait montrée peu coopérative, réticente à leur dire où se trouvait Darren, mais simplement parce qu'ils étaient surexcités et incapables de contenir leur violence. Ils l'auraient peut-être même violée et se seraient dit après coup qu'ils l'avaient fait pour donner une leçon à Darren. Mais quand ils la virent ligotée et sans défense, sous la menace apparente d'un homme en costume tenant une cuillère à la main, un type nouveau de réflexe monta en eux. Soudain, Sheila était l'une des leurs, une pauvre victime à la merci d'un bureaucrate sauvage. D'une façon ou d'une autre, cet homme de haute taille était parvenu à traverser la cité avec une mallette en se faisant suffisamment discret pour éviter d'être agressé. Mais il ne passait plus inaperçu désormais. Les membres de la meute se jetèrent sur l'étranger. Au début, sans doute, avaient-ils seulement l'intention de le rouer de coups de pied, mais trois d'entre eux brandissaient les couteaux. Celui qui tenait un pistolet ne tira pas. Lui au moins démontrait encore un reste de pondération. Les autres, toutefois, ne furent pas aussi intimidés par la puissance hypnotique de leur propre artillerie. Ce meurtre aurait pu passer pour un homicide involontaire plutôt que pour un assassinat, même s'il n'avait pas semblé à ses auteurs qu'il s'agissait clairement là d'un cas de crime justifiable. En effet, pas un seul d'entre eux ne fut capable de formuler dans sa tête une intention de tuer pendant le laps de temps très limité dont ils disposèrent. Malgré cela, le sort de leur victime fut scellé en quelques instants à peine. L'homme se retrouva hors de combat en 10 secondes tout au plus, puis bien engagé sur la voie de l'extinction après 40 secondes seulement, et ce fut vraisemblablement à ce moment-là que son cœur cessa de battre et que son cerveau ne reçut plus une quantité suffisante d'oxygène pour fonctionner. L'ustensile vola des mains de Sarmerodar et disparut de la vue de ses agresseurs, emportant sa cargaison de pulpe aromatique avec lui. Le moins qu'on puisse dire était que Sheila avait été sauvée juste à temps. En effet, si l'homme aux cheveux blancs avait tenu la cuillère sous son nez 10 secondes de plus, alors... Sheila avait vraiment été sauvée. Et elle le savait. Si elle avait respiré le parfum de la 5e dose, elle aurait cessé d'être elle-même et aurait entamé un inexorable processus qui l'aurait amenée à devenir quelqu'un d'autre. Elle n'accepta jamais de croire, pas même l'espace d'un instant, qu'elle serait véritablement devenue l'un des immortels de l'Atlantide, qu'elle aurait pris le commandement de ses fidèles esclaves et redonné vie à ses sœurs, qu'ensemble, elles auraient exercé le contrôle du monde selon un modèle de dictature bienveillante pour sauver l'humanité de l'autodestruction. Elle n'était pas folle à ce point. Mais elle savait qu'aussi fou et délirant que pût se montrer Sarmerodar, il avait eu fichtrement raison sur un point. Elle n'était pas la personne qu'elle croyait être. Elle ne l'avait jamais été. Tapie quelque part à l'intérieur d'elle-même, dans les potentialités secrètes de sa constitution cellulaire, il y avait bel et bien un individu pensant, exempt de graisse et de cellulite. Une personne qui aurait pu se manifester si les 4 petites frappes du gang pathétique de son fils, ses rivaux jurés, n'avaient pas décidé que dans leur narco-guerre boiteuse et stupide, l'heure était venue de descendre Darren. Qui était ce personnage latent? Sheila n'en avait aucune idée. Elle aurait été bien en peine de lui donner un nom. Elle savait une chose en revanche, sans l'ombre du moindre doute, les abominables souffrances qu'elle avait endurées auraient été récompensées, d'une manière ou d'une autre, si seulement le rituel avait pu être achevé. car on pouvait bel et bien parler d'un rituel, décida-t-elle, même si l'épisode s'était davantage apparenté à une séance de sciences occultes qu'à une démonstration de véritable magie. Elle avait vécu une cérémonie d'initiation, un processus symbolique de transition existentielle, comme le mariage ou un gala de remise de diplôme, mais en un million de fois mieux et plus précis. Il se serait peut-être avéré que Sheila était l'un des immortels de l'Atlantide, peut-être pas, mais la jeune fille savait, en tout cas, qu'elle serait devenue quelqu'un. Une personne papillon, au lieu d'une personne chenille. Mieux encore, allez savoir, une personne libellule ou un individu doté d'un aiguillon mortel. Elle n'avait rien perçu de distinct en aspirant dans ses poumons avides et douloureux les premières volutes de la cinquième dose. Toutefois, elle avait ressenti un ardent désir de clairvoyance, une aspiration comme elle n'en avait jamais conçu auparavant, un besoin qu'elle n'aurait même pas cru possible. Et ce sentiment l'habitait encore. Mais elle avait raté son tour, et une telle opportunité ne se présenterait sans doute plus jamais. Lorsque les flics finirent par arriver dans le sillage de l'ambulance que Sheila avait appelée pour qu'on emmène le cadavre, elle leur expliqua ce qui s'était produit. Elle ne donna pas l'identité des garçons, bien entendu, mais la police ne tarda pas longtemps à comprendre qui avait fait quoi et à qui et pour quelles raisons. Lorsque toutes les dépositions furent recueillies, il s'avéra que les différentes versions se recoupaient. Cela rendit les inspecteurs furieux, parce qu'ils auraient vraiment voulu coffrer les membres du gang pour quelque chose de plus substantiel que la simple possession d'armes illégales. Ils auraient aimé coincer Sheila aussi, ne serait-ce que parce qu'elle avait entravé le cours de la justice. Néanmoins, ils savaient qu'ils ne pourraient pas tous les inculper pour un délit grave, et cela bien que la victime eût jadis été un océanographe respectable avant de péter les plombs et de devenir complètement cinglé. On emporta le corps de Sarmorodar. Sheila fut expulsée de l'appartement parce que celui-ci constituait une scène de crime et que les taches de sang ainsi que les divers polluants potentiellement toxiques, dixit les autorités de la ville, devraient être examinés avec soin par une équipe de nettoyeurs spécialisés avant que la municipalité puisse déclarer les lieux propres à la réoccupation. Darren demeura introuvable, mais les services sociaux parvinrent à localiser Tracy et la relogèrent de façon provisoire, comme il disait, en compagnie de sa mère, dans une chambre simple d'un bed and breakfast délabré. Il ne fallut guère plus d'une vingtaine de minutes pour que Tracy s'éclipse à nouveau en quête d'un endroit moins convenable où dormir. Pendant ces quelques moments de répit, Sheila la serra fort dans ses bras. « Inutile de t'inquiéter pour moi, ma chérie, » dit-elle sans raison apparente. « Je vais bien, vraiment, je t'assure. Mais je veux que tu saches avant de partir que je t'aime beaucoup. » Bien sûr, elle aurait pu expliquer bien plus de choses à sa fille. Elle aurait pu en outre lui dire « Je veux que tu saches que tu es la chair de ma chair, et que cette chair est très spéciale, et que si un jour une personne mystérieuse fait irruption dans ta vie, par exemple un homme qui traficoterait avec de la vase draguée tout au fond de l'océan, et qui, suite à une sorte d'infection qu'il y aurait contractée, aurait complètement perdu la boule, peut-être faudra-t-il que tu montres un peu de patience, parce qu'il s'agira probablement de l'héroïque Sarmorodar, à nouveau réincarné et tentant d'accomplir sa mission ancestrale. Un peu comme le monstre couvert de bandages dans le film La Momie, mais d'une manière plus douce. Sheila ne dit rien de tout cela, bien entendu. Cela aurait été ridicule, et sa fille n'y aurait pas prêté la moindre attention. Mais lorsque Tracy fut partie, et que Sheila se retrouva seule dans sa chambre crasseuse et oppressante, avec les télés allumées pour unique compagnie, mais sans vraiment la regarder, elle ne put s'empêcher de se demander s'il y avait encore une lueur d'espoir. Pas juste pour elle et Tracy ou même Darren, mais pour le monde entier, qui ployait sous la menace d'une catastrophe écologique. Elle décida de croire que oui, parce que c'était sans doute la meilleure chose à faire.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un peu de pub éhonté dans cet épilogue. Si vous n'avez encore rien lu de moi et que l'envie vous prend de le faire, jetez un coup d'œil au prochain numéro de Solaris, revue québécoise consacrée aux littératures de l'imaginaire. Vous y trouverez une nouvelle de mon cru qui s'intitule « Singulier pluriel ». Je passe maintenant à la lecture de deux mails reçus ces dernières semaines. Marie écrit « Bonjour, je suis élève au lycée Intel et, dans le cadre d'un TPE, j'aurais quelques questions à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi de diffuser de la littérature? Est-ce que les textes ont subi des transformations avant enregistrement? Est-ce que vous pourriez me mettre en contact avec quelques auteurs diffusés pour leur poser quelques questions? Je vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez à mes demandes et vous souhaite une agréable journée. » Merci de ton message, Marie. Je suis super content de voir que la jeune génération s'intéresse aussi à Utopod. C'est un des buts de ce podcast, s'adresser à un public aussi large que possible, tout en promouvant les littératures de l'imaginaire d'expression francophone. Je suis bien entendu disponible pour te donner un coup de main et répondre aux questions que tu me poses. Je t'envoie un mail en privé et nous pourrons voir tout ça. Salutations et à très bientôt. Alban m'écrit un long message dont je ne reproduis ici qu'une partie. Lorsque vous ouvrirez votre podcast à des textes soumis, contactez-moi. En effet, je suis le webmestre du site consacré à l'écrivain Jacques Sternberg, jacques.sternberg.free.fr, et je rêve maintenant de l'écouter chez vous. Je suis en contact avec ses ayants droit, donc il y aurait une possibilité d'avoir des textes. Bref, je me projette dans le futur du Topod. Est-ce grave, docteur? Longue vie et bonne route. Merci pour votre message, Alban. Non seulement votre cas n'est pas grave du tout, mais il me fait extrêmement plaisir. En tant que grand amateur de Jacques Sternberg, son roman « La sortie est au fond de l'espace » a constitué une de mes premières lectures SF de jeunesse, si mes souvenirs sont bons. Je dis bien sûr oui à votre proposition. Je vous contacte en privé pour discuter des détails. Bonne route à vous et à bientôt sur les ondes. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de parler du Utopod autour de vous, de faire un don si le porte-monnaie et le cœur vous en disent, et de m'écrire à lucas@utopod.com. Lucas s'écrit L-U-C-A-S. Rendez-vous quelque part en janvier 2009 pour le prochain épisode du Utopod qui présentera probablement un texte d'un jeune auteur suisse roman extrêmement prometteur. D'ici là, un joyeux Noël et une bien belle année 2009 à vous tous. Bye bye !